Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Faisons un rêve. Notre monde s'est effondré et les archéologues du futur tentent de le reconstituer à partir de ses vestiges. S'ils retrouvent quelques monuments à la gloire de vainqueurs, disons au hasard l'Arc de Triomphe, ils se feront alors une certaine idée de la grandeur héroïque de ceux qui gouvernaient. Mais les voici qui tombent également sur des textes, surnageant un peu au hasard dans cet océan de désolation. Par exemple, les Pandora Papers, chronique implacable des turpitudes morales de dirigeants sans scrupules. Alors ils déchantent et nomment peut-être séparatisme, cette manière de se tenir à l'écart du commun pour y protéger avant tout ses propres intérêts. Mais décrivent-ils pour autant avec exactitude, nos archéologues du futur, la société dans laquelle nous vivons? Non, car ils ne voient pas celles et ceux qui la font tenir malgré tout. Les bénévoles, les lanceurs d'alerte, les militants, tous les citoyens ordinaires qui, par leur dévouement, leur engagement, mais aussi plus simplement leur travail ou leur choix d'existence, défendent la cause des autres. La cause des autres, tel est le titre du beau livre d'Olivier Christin, proposant une histoire du dévouement politique. C'est lui que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, et parce que cette histoire plonge dans la longue durée, il sera rejoint dans la seconde moitié de l'émission par nos deux sociétaires du jour, l'antiquisant Paulin Ismar et la contemporanéiste Ludivine Bantigny. Je suis votre dévoué, etc., etc. Olivier Christin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur d'histoire moderne à l'Université de Neuchâtel. Et vous avez longtemps travaillé sur les affrontements confessionnels dans l'Europe du XVIe siècle, surtout sur la manière dont on en sort par la paix de religion, c'est le titre d'un de vos livres, mais aussi plus globalement par la délibération politique et le suffrage, Vox Populi, est le titre d'un autre de vos livres. Sortir de la guerre civile, c'est reconstruire du commun, un bien commun. C'est toujours vrai aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est effectivement un fil qui relie mes différents ouvrages qui portent sur des périodes différentes. Vous l'avez dit, La cause des autres, c'est un arc chronologique de Rome jusqu'au 19e siècle et presque jusqu'à nos jours, avec évidemment les lanceurs d'alerte et qui sont les héros dans les Pandora Papers, les lanceurs d'alerte et d'autres. Le fil, c'est bien ça, c'est qu'est-ce qui fait société, comment des sociétés confrontées à la violence, confrontées à la division, confrontées au risque de la guerre civile et de l'éclatement, trouvent en elles-mêmes, et souvent dans les acteurs ordinaires, les ressources pour sortir de cette spirale de la violence et pour recréer du commun, pour recréer des causes communes, pour recréer des manières d'être ensemble, de trouver un ensemble qui les englobe malgré leurs différences.
Alors, notre bien commun, Olivier Christin, c'est la République. Vous avez créé un Centre européen des études républicaines en 2016. C'est votre engagement citoyen, historien. Mais évidemment, il ne s'agit pas de réciter le catéchisme des dévots de la République, mais bien de lui donner un contenu. Et on en parlait dimanche dernier avec des professeurs qui sont confrontés à cette question de l'enseignement moral et civique. Faut trouver un contenu. Absolument. Et vous écrivez, la morale civique n'est donc pas un ornement secondaire dans le discours républicain, une vertu de substitution pour contrer les doctrines de l'Église et de ses partisans, un simple réservoir de sujets pour les compositions et les récitations des écoliers.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui, on le voit très bien dans un certain nombre d'affaires, et vous avez fait allusion à Samuel Paty, la nécessité de rappeler que la question de la morale, ou la question de la vertu, la question du désintéressement, est centrale dans un régime républicain ou dans une démocratie. C'est pas un corps de doctrine, c'est pas un catéchisme, évidemment, avec des préceptes ou les 10 commandements du parfait citoyen. Ce sont des préoccupations au quotidien, ce sont des problèmes concrets, très pratiques, difficiles, auxquels beaucoup d'agents, ça peut être les agents hospitaliers du système hospitalier, ça peut être les pompiers pendant la pandémie, ça peut être des enseignants, sont confrontés et dans lesquels, pour résoudre ces problèmes, on ne leur donne pas toujours tous les moyens dont ils pourraient espérer, sur lesquels ils pourraient compter. Et donc cette question de la République, au fond, c'est revenir à Montesquieu et à cette phrase de Montesquieu sur le moteur des régimes démocratiques, c'est la vertu et pas la peur ou pas l'orgueil ou l'honneur. Il faut le prendre au sérieux.
Oui.
Il faut le prendre au sérieux et dire que ça existe encore aujourd'hui, mais c'est pas une vertu au sens les vertus chrétiennes, une disposition intérieure ou une transcendance. Ce sont des vertus pratiques dans la cité.
Alors, prendre au sérieux cette vertu, c'est aussi écouter les mots, leur affadissement parfois. Vous avez dirigé un beau dictionnaire des concepts nomades. Le mot de dévouement, il a voyagé jusqu'à nous, jusqu'à effectivement s'affaiblir. Je citais une formule de politesse, mais dans l'Antiquité, c'est un mot terrible au sens fort, c'est un sacrifice, la dévotion, c'est un abandon aux dieux infernaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce dévouement de soi dans l'Antiquité ?
Merci de rappeler justement cet affadissement avec « je suis votre dévoué », une expression qui n'emporte plus de volonté de se sacrifier pour qui que ce soit. C'est une formule de politesse. On pourrait aussi dire que dans la langue politique d'aujourd'hui, lorsque les politiques disent que la politique est un don de soi, un sacrifice, on se demande ce qu'ils sacrifient réellement et à quoi ils ont renoncé. Mais dans l'Antiquité, c'est effectivement tout à fait autre chose. C'est un rituel religieux et civique à la fois, et un rituel d'exécration, un rituel où on se voue aux puissances infernales, où on voue les ennemis aux puissances infernales.
Un geste spectaculaire, d'ailleurs.
Voilà, oui. Absolument, avec des cas de crise très grave où la République ou Rome semble menacée ou assiégée, où les légions sont sur le point d'être défaites, et un général accomplit ce rituel en se vouant lui-même aux enfers et en entraînant avec lui dans la mort les ennemis de Rome et sauvant presque miraculeusement la cité. Mais on distingue la dévotion des ennemis et la dévotion des amis. On voit qu'il y a un usage rhétorique au-delà des cas véritablement attestés de dévotio. Il y a aussi un usage rhétorique, un usage stratégique dans la cité à Rome, avec des cas de dévotion qui servent à dissimuler d'autres stratégies ou d'autres petites lâchetés.
Voilà. D'ailleurs, dévotion, dévouement, dévouer, se dévouer a encore, par exemple, dans la langue classique, la langue de la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, ce rôle de sacrifice altruiste.
Alors, les animaux malades de la peste étaient d'une actualité dans les derniers mois, et si on la relit, cette fable est terrible. Les animaux sont malades, malades de la peste. En plus, c'est un moment où on vient d'offrir à Louis XIV une statue équestre dans laquelle il est représenté sous les traits de Marcus Curtius, un jeune dévoué romain qui s'était jeté dans une fosse pour éviter que Rome soit consumée. Mais dans la littérature du 17e, on dit qu'au fond, c'était pas le feu qui consommait cette fosse, mais c'était la peste. Donc il y a un parallèle très fort avec les animaux malades de la peste. Les animaux sont malades, ils sont tous touchés, donc le roi convoque un conseil, on fait parler les animaux dans un ordre hiérarchique, les carnivores d'abord, les nobles, et puis ensuite les animaux herbivores, arrive l'âne qui s'accuse lui-même, et tout le monde dit c'est à lui de se dévouer. C'est pas totalement un bouc émissaire, c'est un geste volontaire.
Mais il se sacrifie quand même.
Mais il se sacrifie. Mais volontairement, et c'est ça qui nous rapprochera peut-être plus tard de ces formes de dévouement, du militantisme ou du dévouement civique. Chez La Fontaine, il y a quand même une critique de la monarchie derrière, une critique des nobles flatteurs, une critique de la cour. Le lion ne se dévoue pas.
Ben oui, parce que justement, vous êtes dans ce moment-là, au XVIIe siècle, où les artisans de la gloire qui officient dans le système de cour aristocratise cette vertu romaine. Vous avez bien montré dans le livre, on est obligé de cavaler, je suis désolé, mais comment les humanistes italiens avaient ressaisi cette question. Mais dans le système de cour, dans le système de ce que vous appelez les rentiers de la gloire, là, ce sont simplement la caste nobiliaire qui a le privilège du dévouement.
Absolument. Fin 16e et tout au long du 17e siècle, on voit une captation de ces modèles romains très prestigieux, réhabilités par les humanistes italiens et les cités italiennes, captés et dans les stratégies artistiques et dans les stratégies rhétoriques et dans les dictionnaires de la noblesse aussi, dans des textes qui veulent faire, par exemple, du roi ou de tel prince, le plus grand des héros de tous les temps, le plus grand dévoué, supérieur à César, à Alexandre et à d'autres. Une aristocratisation qui amène certains princes à se prendre eux-mêmes pour des dévoués romains, comme le Palatin qui joue dans une pièce de théâtre alors que ses territoires sont assiégés. Il joue le rôle de Scaevola, ou de Scaevola, lui-même.
On va en parler.
Dont on pourra reparler.
Et il y a même un certain Guillaume Fumé qui soutient une thèse à la faculté de médecine en 1757 posant la question, l'héroïsme se transmet-il des pères aux enfants? Il dit, oui, il y a une semence virile qui perpétue un petit nombre de races d'hommes distinguées du vulgaire. Seulement, le renversement de votre livre, c'est précisément les Lumières, précisément à ce moment-là, parce que les Lumières vont démocratiser cette vertu.
Voilà.
Céline Spector le dit très bien à propos de Montesquieu, justement, mais de Robespierre qui lit Montesquieu. L'esprit des lois ne se contente donc pas de faire de la vertu le principe de la démocratie, il démocratise la vertu elle-même afin de la décerner au peuple tout entier et non plus au meilleur. Et là, nous sommes dans le dévouement démocratique.
Exactement. C'est un texte magnifique de Céline Spector d'une limpidité complète. Il y a ce retournement du XVIIIe siècle, à la fois congé donné aux héros traditionnels, de la part de Montesquieu, de Voltaire, de Vauvenargue, disant les saccageurs de campagne ne peuvent pas être les héros dont la société a besoin. L'exigence d'utilité, il faut que ces grands accomplissements, les grands hommes, c'est un peu la naissance des grands hommes modernes, doivent être utiles. Ils doivent rendre service à l'humanité, ils doivent rendre service aux hommes, et pas seulement massacrer des provinces. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui vient les rejoindre, c'est autour de l'idée d'exemplarité. Pourquoi donner en modèle des parricides ou des héros sombres et très inquiétants, comme Brutus, qui fait tuer ses fils parce qu'ils ont désobéi à la loi? Il faut aussi réhabiliter des gestes plus modestes et des actes et plus facilement imitables. Et donc, c'est les petites vertus, les petits accomplissements, les gestes moins coûteux et moins sombres qui deviennent un peu la grille de cette démocratisation de la vertu très importante.
Voilà. Très importante. Et ce dévouement démocratique, il porte un nom nouveau. Un nom qui entre dans le dictionnaire en 1798, précisément, c'est le civisme.
Voilà, absolument. La Révolution vient recueillir un peu les fruits de ce retournement des Lumières, de cette volonté de prendre en compte qu'il y a des formes d'utilité variables, pas seulement militaires, mais aussi économiques, scientifiques, les médecins, et que presque tout un chacun peut, et c'est la jonction avec les devoirs d'État, chacun, là où il est, peut accomplir des choses justes et bonnes.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Le civisme qui entre dans le dictionnaire en 1798 est défini comme le zèle qui anime le citoyen et qui se manifeste par son empressement à remplir tous les devoirs attachés à cette qualité. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la cité grecque et romaine dont vous êtes spécialiste, Paulin Ismar?
Bah oui et non. C'est-à-dire que on s'est longtemps représenté le citoyen grec ou le citoyen romain comme participant activement à la vie politique et allant même jusqu'à se dévouer absolument à la chose publique. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. Keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay the mile. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be.
Sont-ce les héros qui changent ou les manières de les imaginer, de les admirer, de les imiter? Écrivez-vous, Olivier Crestin, dans La cause des autres. Vous y décrivez nos usages de ces exemples antiques du dévouement comme des remplois, ce qui est assez classique, ou de manière plus originale comme des reprises musicales, des remixes. Alors, Paulin Ismar, vous vous êtes intéressé à un patricien romain, Caius Mucius Scaevola, qui a été remixé par l'histoire.
Oui, abondamment remixé. Alors, Scaevola, c'est un de ces dévoués exemplaires dont parle Olivier Crestin. C'est un personnage semi-légendaire, en fait. On est au tout début, on est dans les premières années de la République, en 508 avant notre ère, au moment où le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, a été chassé. Alors, il s'est réfugié auprès d'un autre roi, Porsena, qui l'a convaincu de marcher sur Rome. La cité est assiégée. Et un jeune patricien, Gaius Mucius, se lance dans une expédition un peu folle, c'est-à-dire qu'il entreprend, avec l'accord du Sénat, de traverser le Tibre et de pénétrer tout seul dans le camp des ennemis pour assassiner Porsena. Et en fait, il échoue. Ou plutôt, il se trompe sur la bonne personne, c'est-à-dire qu'il assassine un secrétaire du roi qui confond avec le roi lui-même, il est arrêté, il est conduit devant Porsena, et alors là, écrit Tite-Live...
Ah, c'est Tite-Live, donc, qui
raconte
tout ça.
C'est pas le seul. Ouais. Tite-Live, plus tard que beaucoup d'autres. Mais face à Porsena, voilà ce qu'aurait dit Gaius Mucius. « Voici ce qui t'apprendra ce qu'on peut faire de son corps quand on vise la gloire. » Et alors, écrit Tite-Live, il pose sa main droite sur un brasier allumé pour un sacrifice et la laisse brûler comme s'il était complètement insensible. Alors le roi est incroyablement impressionné par ce courage extraordinaire. Il décide de l'épargner, de le laisser partir. Mucius lui explique que 300 jeunes romains sont prêts à faire comme lui, si bien que le roi décide de lever le siège et d'envoyer finalement à Rome des propositions de paix. Et c'est à ce moment-là que Gaius Mucius devient Scaevola, c'est-à-dire le gaucher.
Le gaucher, oui.
Ah oui, c'est le gaucher. Il a donc sauvé la République et le Sénat lui offre des terres au-delà du Tibre, qu'on appellera ensuite les prés Mucius. Voilà l'histoire autour de Scaevola.
Et à partir de cette histoire, Olivier Crestin, il y a justement un nombre de nouveaux Scaevola dont vous faites le récit, jusqu'à Rousseau lui-même qui a mis sa main au feu,
absolument,
en tout cas au brasier.
Rousseau raconte qu'enfant, lui-même né dans une république libre, Genève, citoyen d'une cité libre, il se plongeait dans la lecture de Tite-Live, de Plutarque, des auteurs antiques, et que, fasciné par ces textes et désireux de comprendre et de montrer à ses convives ce que c'était que la vertu, il lui arrivait de mettre la main au-dessus d'un réchaud ou d'une bougie pour montrer ce que c'était que le courage civique et le dévouement. Mais c'est vrai que c'est un des personnages, alors en partie mythologique ou inventé, mais qui pose un certain nombre de problèmes qui m'ont semblé essentiels. Le rapport, par exemple, entre mutilation du corps, mise en danger de soi et démonstration du courage, qu'on retrouvera dans les formes de militantisme contemporain. Aujourd'hui, on en reparlera, grève de la faim et d'autres. Le lien entre le corps et la gloire, le corps humilié qui devient ce corps glorieux qui montre la force de la République. Ou l'idée même d'avant-garde, 300 jeunes Romain serait capable de faire ça, qui fait fléchir une armée. L'idée aussi des avant-gardes politiques, hein, des jeunes déterminés feront fléchir plus puissants qu'eux. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, j'ai un petit nombre de personnages que je suis, parce qu'il fallait bien un fil rouge, était de prendre, effectivement, c'est comme des réinterprétations musicales, où oui, on rejoue, les paroles sont les mêmes, mais l'air a changé. Qu'est-ce qu'on donne comme air musical, ou qu'est-ce qu'on fait dire à ces héros?
Et lui, par exemple, le citoyen Bullard, pendant la Révolution, qui fait un almanach des vertus républicaines, il est passionné de ce qu'est voilà.
Il est absolument passionné, et il y a des cas de soldats mutilés, de volontaires des armées révolutionnaires, mutilés, qui comparaissent à la barre de la Convention, et qui disent « j'ai été amputé des deux mains, mais je suis encore prêt à servir la cité, il me reste encore autre chose ». Voilà, donc c'est cette volonté de reproduire des Scaevola modernes, pardon. On en trouve dans les catéchismes républicains, dans les récits des exploits des armées révolutionnaires. Et donc voilà, c'est un fil rouge, oui, pour faire tenir ensemble les périodes. Alors, est-ce que ça fait une chronologie ou une généalogie?
On en reparlera.
On va en reparler. mais pour moi, c'était le moyen de pas trop disperser en voyant le travail de réinterprétation. Et au fond, c'est peut-être un biais de moderniste. Moi, je suis 16e-iste, 17e-iste. C'est de travailler sur les lieux communs. Ces choses qu'on s'échange et qui vont de soi, qu'on met nécessairement dans un discours, qui ne peuvent pas ne pas être présentes dans un panégyrique.
Et c'est très difficile de faire l'histoire des lieux communs. Et là, vous y arrivez très bien, justement, parce qu'en suivant ces figures.
Là, je me demandais si on pouvait les historiciser, ou est-ce que c'est des choses qu'on a apprises à l'école, ou au collège, ou dans les auteurs latins et qu'on récite, ou est-ce qu'on leur donne du sens dans certains cas et on en fait l'outil de quelque chose?
Je me tourne vers vous, justement, Paulin Hismar. Vous dites que l'Antiquité, bien sûr, se rappelle un d'autres bons souvenirs, mais vous, votre travail comme historien de l'anthropologie politique de la Grèce, c'est de la mettre à distance, c'est de rappeler que ces citoyens militants dévoués corps et âme à la chose publique, ben c'est pas tout à fait les citoyens ordinaires de la cité qui peuvent avoir des rôles plus modestes, ceux des intermittents de la participation politique, en somme.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un exercice un peu scolaire, hein, depuis longtemps, qui consiste à comparer la citoyenneté antique et la citoyenneté moderne, ou la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et dans ce type de récit, il y a un peu un lieu commun qui consiste à considérer que la citoyenneté antique, dans la mesure où elle repose essentiellement sur la participation, faut participer à la chose publique, faut voter, faut délibérer, en fait, conduit à une forme de dévouement absolu à la chose publique. Par exemple, Paul Venn expliquait que le métier de citoyen, il fallait le concevoir sous les traits du militantisme. La cité étant un peu comme les grands partis de masse du XXe siècle. Donc l'idée que le citoyen, d'une façon, s'épuise totalement dans la vie civique. Et cette intensité, de toute façon, elle peut nous faire rêver dans un temps. Alors, pour employer un autre cliché qui serait celui du désenchantement politique présent, on peut rêver comme ça des anciens. En réalité, bon, il y a toute une littérature antique, évidemment, qui porte ce discours. Mais quand on travaille et qu'on connaît un petit peu la vie de ces cités, l'affaire est évidemment beaucoup plus compliquée.
Oui.
Il y a des temps forts, des temps faibles, il y a des intermittences de la participation. Et par exemple, même si on est dans des régimes qui, je pense en particulier aux cités grecques, qui ignorent la représentation, donc on est bien dans des régimes qui sont ceux de la démocratie directe, bah c'est des régimes qui peuvent fonctionner avec une très grande abstention. L'abstention, en fait, pose pas de problème.
Oui.
Et c'est quand même étonnant.
C'est intéressant, Ludivine Bantigny, parce que bien sûr que les révolutionnaires se sont drapés fréquemment dans les toges antiques pour déclarer pompeusement l'avènement des temps nouveaux, mais les révolutions, elles se font aussi, elles se font surtout grâce à ce qu'on peut appeler, avec Olivier Christin, les protagonistes, c'est-à-dire, ce ne sont pas nécessairement des héros.
Non, bien sûr, ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'on parle de lieux communs, on en a évoqué un certain nombre, mais ce sont aussi les lieux du commun, ce sont les protagonistes ordinaires qui forment des lieux de la cité, et le protagonisme au sens fort du terme, hein, tel que vous l'employez dans le livre, Olivier Christin, et notamment en empruntant à Imberstein, hein, sur justement son anthropologie politique de la Révolution française, c'est des individus comme vous et moi, ordinaires, qui décident de se lancer dans le tourbillon de l'engagement, du dévouement, du désintéressement. Et c'est passionnant de vous lire notamment sur le droit d'adresse, hein, les adresses, les pétitions, les tribunes, toute cette activité citoyenne extrêmement intense qui fait surgir justement des notions qui étaient jusqu'à présent délaissées dans les dictionnaires de l'académie, hein, le civisme, la citoyenneté. Donc ce protagonisme comme un élan enthousiasmant, ce qui n'enlève rien à ce que vient de souligner Paulin Hismar sur le fait qu'il y a aussi en fait des temps faibles, il y a surtout une espèce de turnover, une espèce de relais. Voilà, certains protagonistes et femmes aussi, hein, vous le montrez bien, sont pleinement dans cet élan et puis prennent du recul, remplacés par d'autres sur des actions politiques spécifiques. Moi, ça m'a fait penser aussi à ce moment de 1848. Une autre révolution que la révolution française, une autre révolution française, 1848, avec cette idée du dévouement à la République sur les barricades. Hein, ce sont des citoyens combattants. Donc, en février 1848, on se dévoue pour la République, mais aussi pour la justice sociale, pour l'égalité. Et puis, quelques mois plus tard, en juin 1848, ça n'est plus considéré comme aussi légitime légitime de prendre les armes pour défendre la République. Et dès lors, un certain nombre de ces protagonistes ordinaires, des mécaniciens, des serruriers, des licoristes, etc., dont on a les témoignages du fait de leur procès, hein, puisqu'ils sont passés en justice, sont tout à fait surpris de voir et déstabilisés de voir que l'engagement, ce dévouement qu'ils ont accordé à la République est désormais considéré comme illégal, voire illégitime.
Olivier Christin, vous vous arrêtez prudemment à Tocqueville.
Non, je m'arrête prudemment à Tocqueville, mais alors effectivement, là pour moi, la révolution a été un moment très important. Mm-hmm. Peut-être une des choses très importantes, je veux dire le soulagement de trouver des textes qui imaginent l'héroïsme, la bravoure, le courage, le désintéressement, le don de soi à une cause générale de femmes. Parce que dans le livre, avant, je rencontre comme modèle d'extrême dévouement les religieuses qui, sur le point d'être violées, préfèrent se suicider. Ce que je trouvais un exemple pas très joyeux et un peu angoissant. Et là, il y a un vrai changement sociologique, un vrai changement en termes de genre, un vrai changement en termes d'imaginer ce que c'est que prendre part, effectivement, à la vie de la cité, qui ne sont plus juste des modèles rhétoriques ou des modèles de héros formidables ou d'un grand savant, qui resteraient textuels. Là, brusquement, on tombe sur quelque chose je suis tombé sur des textes de nature différente et qui envisagent des acteurs infiniment plus concrets, plus nombreux, plus de chair. Donc ça a été vraiment pour moi un pivot, ce moment révolutionnaire. Et je crois 48, j'avais pris 48 dans l'arc chronologique du livre, m'aurait donné bien d'autres exemples et des exemples dans la direction que vous signalez. L'intérêt d'avoir suivi ces héros romains et de dire « Ah oui, il y a peut-être quelque chose autour du civisme révolutionnaire ou du protagonisme et de ces couronnes civiques, ces inscriptions à l'ordre de la nation, qui relèveraient d'un souvenir de cette intensité citoyenne romaine », c'est que justement, il me semble que dans beaucoup de textes révolutionnaires, et beaucoup de textes juste avant la Révolution, à l'intérêt d'écraser la chronologie démocratie directe, démocratie représentative, liberté des anciens, liberté. Avec ce, par exemple, ce chansonnier révolutionnaire ou le frontispice, c'est ce qu'évoqua Brutus, Guillaume Tell, Rousseau. Hop, dans un même panier.
Oui. Et c'est ce qu'on comprend à vous lire, Olivier Christin, c'est que cette reprise des figures exemplaires, elle fait l'histoire de la vertu républicaine, mais pas nécessairement la généalogie de la République comme régime. Vous avez amené, Paulin Ismart, dans la discussion, le très beau livre passionnant. Alors, tous les livres et les textes, ils sont les références sont sur la page de notre émission, sur le site internet. Le livre de Claudia Moati, Res Publica, qui nous rappelle que les Romains de la République ne savaient pas qu'ils vivaient en République, que la Res Publica, c'était une forme incertaine et dont l'indétermination même était la condition de la politique comme un monde commun.
Oui, Claudia Moati montre bien qu'en fait c'est Leonardo Bruni qui est si important dans le livre d'Olivier Christin, qui pour la première fois...
L'humaniste du XVe siècle.
Oui, qui pour la première fois nomme le régime de Rome entre les rois et les empereurs comme étant un régime politique qu'on peut qualifier de république. En réalité, le terme de res publica, ça désigne... C'est tout à fait autre chose, comme le montre Claudia Moati. Et je pense que c'est vraiment effectivement un livre important et qu'il y a même, de toute façon, une urgence au sens où on voit bien que le terme de république, au moins depuis le début des années 1980, a fait l'objet d'une captation de toute une partie du champ politique, à droite et à gauche, avec même l'idée qu'il pourrait dépasser le clivage droite-gauche, mais sur une conception, je pense, vraiment très discutable, en fait, de ce qu'on peut entendre sous le terme de république. Parce que ce que montre très très bien ce grand livre, je crois, c'est effectivement que res publica, ça désigne à l'origine ce qui est commun aux citoyens. Des choses, des affaires, mais aussi des litiges, le conflit étant originaire et participant à la construction de la cité. Cette chose, elle est par nature indéterminée. Elles sont en commun, elles sont en partage. Et elle montre bien que c'est au cours du 1er siècle, dans le contexte en particulier de la crise des Gracques, au moment où des tensions inouïes traversent la société romaine, que cette chose publique se transforme, que la res publica, ça devient la puissance publique distincte du peuple en tant que tel, une chose abstraite qui surplombe l'ensemble du corps civique. Et c'est le moment où on peut désigner ceux qui apparaissent comme les ennemis de la res publica au nom de l'utilité commune dans un contexte de normalisation de l'état d'urgence ou de l'état d'exception dans les grandes crises du deuxième premier siècle. Et on voit bien que ces questions, d'une façon, sont encore les nôtres. Mais ce flou originaire autour de la notion de république, c'est un terme sans définition substantielle. Je pense que c'est extrêmement important.
En tout cas, ça va jusqu'à nous, évidemment, jusqu'aux figures contemporaines de ce sacrifice altruiste qu'est le dévouement aux politiques. Vous citez Olivier Christin, à la fin de votre livre, Marion Dunlop, qui a été prisonnière en 1909 en Angleterre, et c'est la pionnière de la grève de la faim. Aujourd'hui, on peut penser à Calais, à un prêtre, le père Philippe de Mester, qui a entrepris avec deux militants une grève de la faim pour, je cite, « faire corps avec les migrants ». Et c'est la question que vous citez à la fin. Hein. Vous parlez des femmes, vous parlez des militants qui vont sauver les migrants en Méditerranée, tous ceux qui mettent en danger et exposent publiquement leur vulnérabilité, Ludivine Montigny.
Oui, elle lecture du livre d'Olivier Christin, je pense qu'on peut songer justement à ce qui se passe dans la solidarité, le dévouement à autrui que vous décrivez, à propos des sauvetages en mer et de l'accueil des réfugiés. Je pense tout particulièrement à deux figures contemporaines, la capitaine du Sea-Watch 3, Pia Klemp, qui est menacée d'une peine de 20 ans de prison, qui est menacée aussi d'amendes considérables, 15 000 euros par vie sauvée. Quand on entend ça, voilà, il y a de quoi frissonner devant cette criminalisation aussi de la solidarité. Et je pense aussi au maire d'une petite commune de Calabre, la commune de Riace. Ce maire s'appelle Domenico Lucano et il a été condamné tout récemment à 13 années d'emprisonnement et une très lourde amende de 500 000 euros. Pour aide dite illégale à l'immigration. En fait, dans son village, il a accueilli des migrants, des réfugiés, il a relancé les services publics, il a considéré que la notion de clandestin n'était pas une notion digne de l'être humain, et disant aussi que, justement, quand notre dignité est offensée, quand notre dignité est humiliée, alors il faut savoir désobéir, mais ça lui coûte particulièrement cher. Donc là, on est vraiment dans le dévouement tel que vous le décrivez dans votre beau livre.
Merci beaucoup de ces deux exemples qui sont évidemment des exemples essentiels et terrifiants. On pourrait ajouter d'autres, on pourrait ajouter Julian Assange, on pourrait ajouter les lanceurs d'alerte de LuxLeaks, de gens qui prennent des risques pour alerter sur des détournements d'argent, de la fraude fiscale massive. Donc c'est vrai, et ça pointe très justement un deuxième tournant, après le tournant des Lumières et l'idée d'utilité à autrui, en général, à des causes qui ne sont pas la cause du prince ou la cause du roi, se dévouer pour le roi ou se dévouer pour la religion, mais se dévouer pour l'humanité, pour la liberté, pour la cité. Eh bien, le deuxième grand tournant, pour moi, c'est ce 20e siècle ou le début 20e. C'est le retournement du dévouement et du don de soi, du sacrifice de soi et de ses intérêts personnels au service de la dénonciation des injustices de la cité telle qu'elle est. La cité telle qu'elle est, le fait que la grève de la faim commence chez les suffragettes, chez les républicains irlandais ou chez Gandhi, c'est les marges du système politique anglais de ce moment-là. C'est vraiment la cité injuste dénoncée. Et on pourrait donner des exemples terribles. Alors, bien sûr, la capitaine du Sea-Watch, mais ou Marion Dunlop. Aussi, ces moines qui se sont immolés par le feu pour protester contre la guerre du Vietnam. Où là, on voit que, justement, peut-être la fragilité des corps, la fragilité du citoyen devient une arme de lutte et une arme de lutte qui donne de l'espoir dans l'humanité.
Il y a un mot, Olivier Christin, qui semble traverser votre livre à la manière d'un concept nomade, là encore, c'est celui de dette. L'homme vertueux, c'est un animal politique qui se sent en dette vis-à-vis de Dieu ou de ses dieux, et le sentiment de la dette se transporte ensuite de la divinité à la société. Mais le renversement moderne du sacrifice, c'est justement que ces engagements militants dont nous avons parlé, il ne s'agit pas de renoncer à soi-même pour s'acquitter d'une dette envers la société, mais de protester, écrivez-vous, contre les injustices qu'elle produit ou accepte en se singularisant spectaculairement et dangereusement.
Oui, absolument. Alors, le discours de la dette est très fort, et je le rencontre dans des textes. Ces textes italiens, des humanistes italiens, personne n'est né sans avoir de dettes. On a des dettes à l'égard des parents, on a des dettes à l'égard de la cité, des dettes à l'égard du prince ou à l'égard de Dieu. Et c'est un des lieux où se forge l'idée que il y a des obligations commune, pour faire lieu commun, pour faire société commune. Aujourd'hui, ça se présente différemment, évidemment. Et je trouve que ces gestes autour de l'idée de désintéressement n'est plus de renoncer à la dette, de « non, je n'ai dette à l'égard de personne et je ne dois rien à mon pays, je ne dois rien au système scolaire qui m'a formé », mais porte sur la question de la justice et de la société injuste. Je trouve ce glissement nous permet de comprendre les nouvelles formes militantes d'aujourd'hui. Parce que c'est aussi un livre sur le protagonisme, sur le militantisme, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut comprendre ces nouvelles formes militantes qui ne sont pas dans des organisations partisanes ou pas vraiment, et qui sont des formes de construction de la cause. Comment on construit une nouvelle cause en étant une jeune fille de 14 ans, en étant Greta Thunberg ou en étant une militante sur la mer, avec son bateau, sans ressources d'un État, sans ressources d'une structure, avec peu de moyens. Je pense aussi dans la liste que vous donniez, Cédric Héroux. Voilà.
Là aussi, une criminalisation de la solidarité.
Absolument.
À l'égard des migrants.
Harcèlement judiciaire, harcèlement de certains voisins, etc. Et de quelqu'un qui ne démord pas de cette ligne de défense de l'humanité et de l'humanité des migrants.
Du dévouement à l'engagement. Merci à tous, merci Olivier Christin, merci Paulin Ismar, merci Ludivine Bantigny. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Florian Dorimini. La semaine prochaine, nous parlerons de l'adaptation cinématographique et théâtrale des Illusions perdues de Balzac avec Pauline Bayle et Xavier Giannoli.